Végétation, écologie, nature,
Radio Campus et la maison de l'Orado présente
Mon quartier en transition.
Bonjour à tous. Nous sommes des enfants de l'école élémentaire Paul Bert et le centre culturel Maison de l'Oradou nous a confié une mission, faire un podcast.
Ah oui, mais il parle de quoi ce podcast ?
C'est mon quartier en transition.
En transi quoi ?
En transition !
Mais ça veut dire quoi, transition ?
La transition, c'est quand il y a un changement, quand on passe d'un état à un autre.
Ah d'accord, mais c'est un gros sujet. Par où on va commencer ?
On va parler de plusieurs choses, de l'école, de l'écologie et aussi des travaux et de ce qui change dans le quartier. On va parler de comment était le quartier avant et d'à quoi il ressemblera plus tard.
Mais je ne sais pas à quoi ressemble le quartier avant, j'ai que 6 ans.
C'est pour ça qu'on va poser des questions à des personnes du comité de quartier. Elles habitent ici depuis très longtemps.
Elzia, Kaina, Ea et Anaïs se sont chargées d'aller leur poser quelques questions au sujet de l'école.
L'école.
Bonjour.
Bonjour.
Comment l'école était avant ? Est-ce que le bâtiment a changé ?
L'école maternelle qui existe aujourd'hui au coin de la rue de la Pradelle et de la rue de l'Oradou n'existait pas. C'était un petit casino qui se trouve là. Le groupe scolaire Paul Bert lui était composé de 3 parties. Quand on était dans l'impasse qui amène à l'école, côté gauche, c'était l'école de filles. Au fond de l'impasse, c'était l'école maternelle. Et sur la droite, il y avait 2 cours et 2 entrées, c'était l'école de garçons. Au début de la cour de l'école de garçons, il y avait les douches municipales. Ensuite, un portail, la maison du gardien ou du concierge, un autre portail et puis un autre petit bâtiment dans lequel le concierge rangeait ses affaires. L'école maternelle, l'entrée était tout à fait au bout de l'impasse et l'entrée de l'école de filles se trouvait à l'endroit où se trouvent les boîtes aux lettres aujourd'hui. Bon, le reste de l'école, il y avait des arbres comme aujourd'hui. Le respect, la politesse, la discipline étaient de rigueur. Les élèves entraient en classe en silence et en rang et allaient se mettre à côté de leur place, à côté de leur bureau et attendaient que l'instituteur donne l'ordre de s'asseoir. On disait bonjour. L'instituteur, on l'appelait maître ou maîtresse ou monsieur ou madame, mais pas par son prénom. Et lui n'appelait pas les enfants par leur prénom, mais par leur nom. À l'école maternelle, les enfants devaient présenter leurs mains avant d'entrer en classe pour voir si elles étaient propres. Hein. Et voilà comment on devait se comporter. La blouse était obligatoire pour les élèves et pour les instituteurs. Tout le monde avait une blouse dans l'école.
Et systématiquement, on avait un vêtement à manches longues qui fermait bien en haut. Et en tout cas, du moment qu'on était en classe, on était en blouse. Donc il n'y avait pas de concours de vêtements. À la limite, il y avait un concours de blouse.
Voilà.
Dans certaines écoles, c'était la même couleur. Et dans d'autres écoles, les blouses étaient libres. On pouvait prendre du rouge, de l'orange, du vert.
Comment étaient séparées les écoles filles et garçons ?
Les écoles étaient séparées très simplement, hein, par un mur entre chaque école. Le seul moment où les filles et les garçons étaient ensemble, c'était pour le repas de midi pour les rares enfants qui allaient à la cantine. La majorité des enfants rentraient chez eux à midi, sachant qu'on avait 2 heures. La classe se terminait à 11h30. Elle reprenait à 1h30. Les gens habitaient dans le quartier, rentraient à pied, cassaient la croûte et ils retournaient à l'école.
Est-ce que la végétation a changé ? Arbres, jardins, etc.
Ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, dans les cours, il y avait des marronniers. Mais aujourd'hui, ils y sont toujours. Par contre, je ne sais pas s'il y a d'autres petits coins où on fait de la culture, où il y a des fleurs. Nous, il n'y avait pas de fleurs. Il y avait uniquement les arbres dans les 3 cours.
Est-ce que les classes ont changé ?
Est-ce que, on était à côté, tout le temps à côté de nos copains ? Est-ce que dans la salle de classe, la maîtresse ou le maître, il avait un bureau pour lui ?
En fait, il faut bien penser que vous avez votre école. Elles étaient à peu près toutes
copier-coller sur le même modèle. On vous a parlé un peu de la discipline, on dit bonjour, on s'assoit, on est propre, on a la blouse, nanana. Donc ça, c'était très axé sur la discipline et le respect mutuel, d'accord ? Donc ce qui fait que les instituteurs étaient très souvent derrière un très grand bureau, sur une estrade, pour être très visible de tout le monde. Et je peux vous dire qu'ils avaient un coup d'œil sur absolument chaque enfant, sachant qu'il y avait beaucoup plus d'enfants dans les classes. Et pas un bruit. Sinon, il y avait punition. Souvent, qu'est-ce qu'il avait à la main ? Il avait une brosse pour brosser son tableau, il avait des craies, il passait son temps à se retourner, à venir, etc. Quand il y avait des enfants un peu agités, qu'est-ce qu'on faisait ? Bon, on les séparait. On ne les laissait pas papoter, jacasser à longueur de cours. Est-ce que les maîtres étaient plus rigoureux, plus difficiles, plus durs avec les garçons ?
Je pense que c'était équivalent, hein, que ce soit l'école, les filles ou les garçons, la discipline devait être respectée, on devait respecter tout le monde.
Mais en plus, on avait systématiquement quelque chose. Je ne sais pas si vous allez l'aborder, c'est la leçon de morale. On vous en a parlé ? En fait, tous les matins, le maître avait une très belle écriture. Notez bien que tout était à la main. Les maîtres et les maîtresses avaient une très belle écriture, avec des belles lettres bien coulées, très peu de... Il n'y avait pas de tableau moderne, etc. Donc, la craie... Et le... Donc, alors on avait, nous, les élèves, on avait la crainte de la craie qui grince sur le tableau. Ça fait... Et ça vous rentre jusque dans le cerveau, c'est terrible, ce bruit de la craie sur le tableau noir.
Nous, on a le tableau blanc.
Tableau blanc, et vous écrivez avec du feutre.
Oui.
Qui fait du, il fait du bruit, ou il fait pas de bruit ?
Il fait pas de bruit.
Et donc, le maître et la maîtresse, ce qu'ils demandaient souvent, c'était qu'un élève était désigné, je ne sais plus si c'est tous les jours ou une par semaine, mais on va dire tous les jours, un élève était désigné pour venir nettoyer le tableau. De façon à ce qu'à la fin des cours, tout était propre, nickel pour le cours d'après, le lendemain.
Mais est-ce qu'il y avait des métiers comme par exemple jeter la poubelle, faire le rituel ou
Chaque instituteur, chaque maître ou chaque maîtresse devait avoir sa façon de gérer sa classe. En général, il n'y a rien qui traînait par terre. Je peux vous dire qu'à l'époque, les bonbons, c'était niette de chez niette, c'est-à-dire pas du tout de bonbons. En cours, donc rien ne traînait.
Même pour les anniversaires, vous n'avez pas le droit aux bonbons ?
Non, ça n'existait pas. Il faut bien vous mettre dans l'idée qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous avez vu, hein, les années 50, 60 ans, les gens étaient plutôt pauvres. Les bonbons, c'était archi-exceptionnel pour Noël, par exemple.
Avec quoi vous écriviez ?
Avec un porte-plume, comme un crayon de papier avec une plume au bout. Une plume en métal, hein, pas une plume d'oiseau. Hein. Et la plume, on l'a trempée dans l'encre. Et cette encre, on la faisait à l'école. La maîtresse désignait une élève pour aller faire l'encre.
En mélangeant de la poudre et de l'eau, on faisait de l'encre. Et il y avait des petits encriers sur la table, en faïence blanche. On mettait dedans l'encre. Et après, à chaque fois qu'on écrivait, on trempait notre porte-plume dedans et on devait écrire sur nos cahiers. Les stylos-billes n'existaient pas. Il n'y avait que les porte-plumes, les crayons de papier et les crayons de couleur. Et il n'y avait pas de feutre. Ça n'existait pas.
Est-ce qu'il y avait autant de profs que maintenant, un prof par niveau ?
Il y avait un instituteur par classe, par niveau.
Il y avait certaines écoles dans les villages où il y avait plusieurs niveaux dans la même classe. Donc l'instituteur de l'époque, il était obligé de s'adapter aux divers niveaux de la même classe.
Est-ce que le portail a changé ?
Oui, je réponds oui tout de suite. Parce que le portail, déjà, il y en avait quatre. Un, deux pour l'école de garçons, un pour l'école maternelle, un pour l'école de filles. Et ce n'était pas ceux qui existent aujourd'hui.
Nous remercions le comité de quartier d'avoir accepté d'échanger avec nous.
On se rend bien compte que beaucoup de choses ont changé.
Maintenant, nous aimerions parler de ce que nous voudrions voir changer à l'école. Par exemple, on veut plus d'arbres et de verdure.
On veut étudier dehors quand il fait beau.
On veut des jeux écolos pour l'été.
En parlant d'écologie, il me semble que Jules, Leïla, Élise et Loïs se sont penchés sur la question.
L'écologie.
Bonjour.
Bonjour. Nous avons nous aussi posé des questions aux membres du comité de quartier.
parce qu'on voulait se renseigner sur les évolutions du quartier autour de l'écologie.
Je suis sûre qu'ils auront plein de choses à nous raconter.
Est-ce qu'avant, il y avait autant de pollution qu'aujourd'hui ?
Si on t'a dit dans les précédentes questions qu'il y avait très peu de voitures, ça veut dire que peut-être il y avait très peu de pollution. Eh bien, en fait, non. Il y avait de la pollution. Parce que dans Clermont-Ferrand, qu'est-ce qu'il y avait ? Des petites usines, à peu près partout, dans tous les quartiers. Donc, tout dépend si c'est la pollution de l'air. Si c'était une usine qui faisait brûler un tas de choses pour fabriquer des objets, il y avait de la pollution dans l'air. Si c'était une usine qui va travailler avec l'eau et qui utilisait l'eau pour faire fonctionner un moulin ou quelque chose d'autre, eh ben, l'eau était polluée. On oubliait le chauffage. Donc le chauffage était au bois, charbon et bois. Est-ce que vous savez ce que c'est que le charbon ?
Non.
C'est des petites boules noires qu'on mettait, des petites boules noires d'un matériau qu'on appelle le charbon. À l'école, on a parlé de l'école et du chauffage et de l'école, on n'a pas encore fait allusion, mais longtemps, avant qu'il y ait le chauffage central avec des radiateurs dans toutes les classes, en fait, il y avait un poêle au milieu de la classe. Alors ça, c'était il y a très 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 longtemps. Mais n'empêche que la salle était très 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 froide et le matin, les élèves devaient transporter soit les boules de charbon et le mettre dans le poêle, soit prendre le bois et le mettre dans le poêle. C'était un travail, réellement, certainement à tour de rôle, mais il fallait faire d'abord chauffer la classe et le maître était aidé par les élèves. Maintenant, vous avez un chauffage avec des radiateurs. Donc la pollution, c'était aussi, par exemple, au bout du tuyau, en haut de l'école, il y avait une fumée noire. Et bien, c'était de la pollution à cause des poêles à bois de l'école.
Aujourd'hui, les gens se déplacent beaucoup en trottinette électrique. Comment se déplaçait-il avant ?
Il n'y avait pas de trottinette électrique à l'époque. Il y avait des petites trottinettes, mais c'était des jouets d'enfants. On ne pouvait pas se déplacer avec. Et sinon, on allait à pied. Et en général, souvent, les enfants se ramassaient, les grands emmenaient les petits et tout le monde allait à l'école en groupe à pied.
Est-ce que vous vivez dans une maison ou dans un appartement ?
Quand je suis arrivé à Clermont en 71, j'étais, disons, peu fortuné, donc j'ai été locataire. Mais j'habitais un HLM de 10 étages à Clermont, et bien sûr, c'était une étape. J'ai donc épargné pour pouvoir faire un emprunt. Et grâce à ça, depuis 1982, j'habite une maison individuelle. Et ça n'a rien à voir avec la vie communautaire dans un HLM. Parce que pour donner un exemple, pour Noël, les gens faisaient le fameux sapin. Et ce sapin, quand Noël était passé, ils le balançaient dans la vie d'ordure, depuis le 10e étage. Vous doutez qu'il n'allait pas en bas. Il se bloquait dans la descente des ordures. Et là, il fallait appeler une entreprise spécialisée pour déboucher.
Est-ce que le HLM était dans ce quartier ?
Alors, il n'était pas dans ce quartier, mais il n'était pas loin. C'était rue Guinemer. Vous le voyez, rue Guinemer, c'est au bas de la rue, quand vous allez vers la gare. Et c'est le 10 étages que j'ai fréquenté pendant une dizaine d'années.
Moi, j'habite dans la maison dans laquelle je vivais quand j'étais enfant, quand j'étais petit. J'y suis resté jusqu'à 18 ans. À 18 ans, je suis parti de Clermont-Ferrand pour aller faire mes études et ensuite pour travailler. Donc j'ai travaillé pendant 40 ans et au bout de tout ça, à 60 ans et quelques, je suis revenu dans ma maison natale pour m'y installer jusqu'à mes derniers jours.
Est-ce qu'il y avait des parcs à côté de l'école ?
Non, il n'y avait pas de parc public à côté de l'école. Beaucoup plus de jardins potagers, avec des arbres essentiellement, et puis les gens cultivaient les légumes pour se nourrir. Le bon exemple, c'était là, au coin de la rue de la Pradelle et de la rue de l'Oradoux, face à ce qui est l'école maternelle aujourd'hui, il y avait un immense parc avec une très belle demeure. Hein. De l'autre côté de la rue, il y avait au début de la rue, il y avait de petits immeubles et après des maisons qui étaient surélevées par rapport à la rue. Il y en avait une qui s'appelait La Roseraie, hein, qui était très très fleurie et c'était tout le long comme ça. Chez moi, à côté, là, mon grand-père bêchait tout le terrain pour planter des légumes. Et il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Il y avait des abricotiers, essentiellement, et des poiriers et des pommiers.
Vers le hameau de la Source, si vous vous situez, c'est vers la rue de la Pradelle, il y a encore ces jardins qui sont opérationnels. Il y a des gens qui cultivent des légumes de saison.
Est-ce qu'avant, il y avait des fleurs et des fruits sur les arbres du quartier ?
Il pouvait toujours y avoir des jardinières avec des fleurs. Hein, et puis les arbres fruitiers, bon, ben, ça donne des fleurs et des fruits. Ce qu'il faut voir, c'est que le quartier était complètement différent. Si tu veux, il y avait beaucoup de jardins. Hein, si on part d'ici en allant en direction de l'école, où il y a le marchand de vélo, c'était un terrain avec des jardins. Après, où ils sont en train de construire un immeuble, c'était une très belle demeure, si tu veux, qui était occupée par les gens des eaux et forêts, avec des arbres aussi dans le terrain. Après, il y avait une usine de fabrication de ballons de basket dans le virage de la rue. En face, il y avait une fabrique de chaussures, et il n'y avait pas d'immeuble dans la rue, sauf tout à fait au début, vers l'école, là où il y avait quelques petits immeubles.
Merci aux membres du comité de quartier de nous avoir accordé cette interview. Grâce à eux, on voit bien ce qui a changé ou pas.
En parlant d'écologie et de changement, Angaïa, Chloé, Elsa et Ellie ont souhaité parler des travaux et du projet Inspire pour leur poser quelques questions.
Les travaux.
On a souhaité de parler des travaux, car avec eux, le quartier va changer. Dans le quartier, depuis quelque temps, des travaux d'aménagement ont lieu pour préparer le passage du trambus.
Angaïa, Chloé, Elsa et Ellie vont poser quelques questions à propos du projet Inspire aux personnes qui y travaillent.
Qu'est-ce que le projet Inspire ? Pourquoi faites-vous des travaux ?
Avec Inspire, on pourra aller de Jourde au Zénith ou à l'aéroport en trambus et rentrer en trambus tard le soir. Avec Inspire, on aura un nouveau réseau de bus. On aura trois lignes fortes, le tram, la B et la C, qui passeront très souvent et qui seront plus directes. Mais on aura aussi d'autres lignes, certaines qui existent aujourd'hui, d'autres qui seront toutes nouvelles. Sur le site d'Inspire, vous pouvez voir ce nouveau réseau et imaginer le trajet de votre choix en affichant ou en masquant celles qui vous intéressent pas trop. Ça vous permet de vous faire votre propre parcours comme vous le voulez. Et enfin, avec Inspire, on va redécouvrir certains quartiers de Clermont-Ferrand. Il y a plein d'endroits où on peut faire du shopping à Clermont et on pourra y aller plus facilement.
Depuis quand faites-vous des travaux ?
Les travaux Inspire ont commencé au printemps 2023. Lors de cette première phase, on a renouvelé les tuyaux souterrains. Les tuyaux d'eau, de gaz, d'électricité et d'internet, ceux qui étaient mal placés, ceux qui étaient trop vieux. On a renouvelé ces tuyaux pour faciliter l'entretien par la suite et éviter qu'ils ne se recassent par le passage des bus juste au-dessus. Ensuite, une fois les tuyaux refaits, on peut commencer une autre phase, celle qu'on voit actuellement sur la rue de l'Oradour, sur Blatin, sur Balainvilliers. Cette phase, elle permet de construire la surface de la route et des trottoirs, planter des arbres, installer les abribus, les bancs ou encore les lampadaires. À la fin de l'année 2025, les trambus circuleront sur des routes propres, plus jolies qu'avant et avec des tuyaux souterrains, tout neufs.
Y avait-il des trams et des bus avant et des pistes cyclables ?
Oui. Il y avait déjà des transports en commun avant. Le premier tram de Clermont-Ferrand date de 1890. Celui que l'on connaît aujourd'hui a été mis en service en 2006. Concernant la première piste cyclable, elle date, selon les archives départementales, de 1938. Depuis, ces voies cyclables se multiplient pour apporter sécurité, continuité et rapidité aux cyclistes de tous âges. Avec les trambus, on aura la souplesse du bus avec l'efficacité du tram. Autant de voies pour le bus que possible le long des aménagements. La recharge électrique se fait à certains arrêts, dont les terminus, pour rouler sur batterie. On pourra acheter son titre de transport, voir les horaires comme à un arrêt de tram. On pourra circuler sur les lignes B et C à la même fréquence que sur la ligne de tram. Ces trambus tout neufs, ils circuleront sur des routes végétalisées. On plante 3000 arbres dans le cadre du projet. On refait aussi l'état des routes et des trottoirs pour que ce soit plus joli et que ça dure plus longtemps.
Quelles lignes de bus vont passer vers l'école Paul Bert ?
À proximité de l'école Paul Bert, il y aura la ligne C. Cette ligne part de la clinique cardio-respiratoire de Durtol, elle descend jusqu'à la place de Jaude, elle arrive jusqu'à l'école Paul Bert avec un arrêt à proximité de la pharmacie, elle continue de descendre l'Oradou jusqu'au Zénith pour aller voir des concerts, et elle remonte ensuite jusqu'au lycée Descartes de Cournon. Elle circulera de 5h à 1h du matin, toutes les 6 à 8 minutes en heure de pointe. Les trambus, qui circuleront sur cette ligne C, sont des véhicules pouvant transporter 140 passagers. Ils ont 4 portes, ils sont modernes, spacieux, électriques, sur batterie, pas de rails au milieu de la route, et un design typiquement clermontois, avec notamment le puits de Dôme qui apparaît sur le côté.
Ensuite, nous avons voulu poser des questions à des personnes du comité du quartier. Elles vivent ici depuis longtemps et elles vont nous expliquer à quoi ressemblait la vie dans le quartier auparavant.
Comment vous déplacez quand vous étiez jeune?
Nous n'avions pas de voiture. Mes parents n'avaient pas de voiture. Donc, la réponse était toute trouvée, c'était la marche à pied. Et il fallait, disons, parcourir des fois des distances non négligeables. Mais c'était la règle, il n'y avait pas d'autre choix. Donc, c'était la marche à pied et il n'y avait pas d'élèves qui venaient à l'école accompagnés par les parents en voiture. Ça n'existait pas. On rappelle la période, 1950.
Souvent, on habitait très proche des écoles. Et pour nous, très proche, ça pouvait faire ou bien 100 mètres, c'est-à-dire marcher 3-4 minutes, ou proche, ça pouvait être à la campagne. Alors nous, on va parler de Paul Bert, donc on était très très proche, mais dans certaines campagnes, il fallait faire des kilomètres à pied pour aller à l'école.
Pourquoi vous ne prenez pas la moto ?
On ne prenait pas la moto, c'était pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas de moto. Donc c'était tout de suite réglé. J'ai un frère jumeau, et ma maman était institutrice à l'école de filles Paul Bert. Et pour se rendre à l'école, elle avait un vélo et mon papa avait soudé 2 sièges, un sur le cadre, la partie avant, un sur le porte-bagages. Et ma maman nous emmenait tous les deux sur son vélo pour se rendre à l'école.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. On a beaucoup appris et surtout on s'est bien amusé. On espère que vous aurez appris plein de nouvelles choses.
Pour terminer, nous souhaitons remercier la ville de Clermont-Ferrand et son centre culturel, la Maison de l'Oradou. Merci aussi à l'école Paul Bert. Nous remercions Radio Campus, l'équipe du projet Inspire et le comité du quartier Clermont-Sud. Enfin, nous remercions Chloé, la comédienne du Lip Sync Challenge qui nous a donné des cours de théâtre. Et nous vous remercions, vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés.
À bientôt !
Végétation, écologie, nature. Vous venez d'écouter
Mon quartier en transition
avec Chloé, Ea, Kaina, Elsia, Anaïs, Ve, Angaya, Leila et Liz.
Projet à l'initiative de la Maison de l'Oradou, un centre culturel de la ville de Clermont-Ferrand.